Voici donc votre rendez-vous avec l'accent des autres, comme chaque semaine. Bienvenue, c'est donc l'essentiel de l'actualité de la semaine au sein des médias francophones publics. Un rendez-vous réalisé avec la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, France Inter, la RTBF et RFI. Et on va commencer aujourd'hui précisément avec RFI en Tunisie. Et cette première, Anne Cantner, la nomination d'une femme au poste de première ministre.
Najla Bouden Romzan est la première à occuper ce poste.
Une première aussi au Canada cette semaine, Benoît Audet, avec la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation.
Cette journée fériée se tiendra désormais chaque 30 septembre pour honorer la mémoire des enfants disparus ou qui ont survécu aux pensionnats autochtones.
En Suisse, il n'y a désormais plus de discrimination entre les couples hétérosexuels et les couples de même sexe, Pierre Anchauffat.
Un oui plus net qu'attendu au mariage pour tous, un peuple moins conservateur que ses autorités politiques quant à l'évolution de la société, y compris pour ouvrir l'accès au don du sperme pour les couples de lesbiennes.
La réforme de l'assurance chômage vient d'entrer en vigueur en France, officiellement depuis ce vendredi, et Karine Bécard, ça provoque l'inquiétude des agents du Pôle emploi.
Oui, vous savez, personne n'a oublié en France la mort de cette conseillère de Pôle emploi à Valence qui avait été attaquée par un homme armé. Cela s'était passé en janvier dernier. 9 mois plus tard, avec cette réforme qui ne passe pas, eh bien des bracelets d'alerte, notamment en Île-de-France, viennent d'être commandés.
Enfin, en Belgique, les assouplissements en fonction des chiffres de l'épidémie de Covid-19 se poursuivent, mais à un rythme différent selon les régions, en fonction, Jacques Remers, du taux de vaccination.
Oui, depuis ce 1er octobre, les clients des restaurants et des magasins peuvent laisser tomber le masque en Flandre, mais en revanche, le masque reste obligatoire en Wallonie et à Bruxelles, tant que le pass sanitaire n'est pas entré en vigueur.
Voilà pour le sommaire de cette semaine, bienvenue dans l'accent des autres. C'est une nomination historique pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie et du monde arabe. Une femme occupe le poste de première ministre, Anne.
Najla Bouden Romzan a été choisie par le président mercredi. Un honneur pour la Tunisie et un hommage à la femme tunisienne, selon le chef de l'État, qui s'était pourtant illustrée par des prises de position conservatrices par le passé, notamment en se prononçant contre un projet de loi permettant l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage. Najla Bouden Romzan a 63 ans, elle est géologue de formation, universitaire brillante et ancienne haut fonctionnaire au ministère de l'Enseignement supérieur. Jusqu'à sa nomination, elle était totalement inconnue du grand public et elle est novice en politique. Elle ne dispose pas de réseau dans les milieux économiques, ce qui inquiète les syndicats.
Et cette nomination surprise, Anne, elle intervient en pleine crise politique.
Le président tunisien a officialisé par décret la semaine dernière son coup de force du mois de juillet, après des mois de tensions politiques avec son premier ministre de l'époque. Kais Saied avait suspendu le Parlement. Désormais, c'est lui qui présidera le Conseil des ministres et il a la main également sur le pouvoir judiciaire. La marge de manœuvre de la nouvelle première ministre risque donc d'être très faible, pour ne pas dire inexistante. Certains voient dans cette nomination une diversion de la part du président pour mettre sa dérive autoritaire au second plan. Les premières déclarations de Najla Bouden Romzan ainsi que la composition de son gouvernement devraient permettre d'y voir un peu plus clair sur le rôle que le président lui réserve.
C'est une première cette semaine aussi au Canada, une journée consacrée à la mémoire et à un passé pas si lointain. Une journée de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones pour se souvenir aussi du drame des pensionnats autochtones, un système mis en place par le gouvernement canadien au 19e siècle et qualifié, Benoît, de génocide culturel par une commission d'enquête.
Pendant des décennies jusqu'à la fin du 20e siècle, 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles pour être internés dans des pensionnats dirigés par des communautés religieuses. Beaucoup d'entre eux ont été victimes de sévices psychologiques, d'abus physiques et sexuels, bref, des histoires horribles. On estime qu'au moins 3 000 enfants sont morts dans les pensionnats.
Oui, et on comprend évidemment toute la signification que revêt maintenant cette journée du 30 septembre.
C'est une occasion pour les Canadiens de confronter ce passé, pour les survivants aussi. C'est une occasion de raconter leurs histoires. Ils sont encore nombreux à porter les séquelles de leur passage dans des pensionnats. D'un bout à l'autre du pays, on a tenu des cérémonies, des rassemblements en solidarité avec les peuples autochtones.
Et au moment où le Canada tente précisément de tourner cette page sombre, une autre histoire, Benoît, vient rappeler que le travail n'est pas terminé.
Non, des communautés autochtones ont remporté une importante victoire cette semaine devant un tribunal. Le gouvernement fédéral contestait le versement d'une indemnité à des enfants autochtones retirés à leur famille et placés dans le réseau de protection de l'enfance au cours des dernières années. Ottawa estime que les montants versés sont trop élevés, mais des leaders autochtones répliquent que ça suffit et que le gouvernement doit abandonner les procédures pour démontrer sa bonne volonté quand vient le temps de parler de réconciliation.
En Suisse, à présent, le peuple a largement approuvé l'introduction du mariage pour tous. C'était dimanche dernier. Les couples de même sexe ont désormais les mêmes droits que les couples hétérosexuels, Pierron.
Depuis 15 ans, le partenariat enregistré pour les couples homosexuels passe pour un mariage au rabais, d'où ce mariage pour tous qui aura tout de même mis 8 ans à franchir toutes les étapes jusqu'au peuple. Et ce oui plus large qu'imaginé à 64%, surtout à l'unanimité des cantons, montre une fois de plus que l'électorat est moins frileux que le Parlement sur ces thèmes de société. Un vrai soulagement pour Doris Féminis, mère d'une famille arc-en-ciel.
Pour nous qui sommes dans ces mouvements depuis 30 ans, que nous avons vu combien c'est fatigant d'y arriver chaque fois, ben là, il y a tous les droits. Finalement, c'est incroyable.
Il n'y a donc plus de discrimination dans la loi pour les couples de même sexe.
Seuls les battus du jour veulent voir une nouvelle discrimination au sein de ces couples, celle des hommes qui ne pourront pas avoir d'enfants, à la différence des femmes qui pourront recourir au don du sperme et à la procréation médicalement assistée. Marco Chiesa préside l'UDC, le premier parti du pays.
Maintenant, il y a la possibilité pour les couples lesbiennes de procréer ou bien de faire appel à la procréation médicale assistée. Et on va voir une autre motion qui nous demandera de donner la possibilité de procréer par des couples d'homosexuels en Suisse.
Autrement dit, ils suspectent les couples homosexuels de vouloir la levée de l'interdiction de la gestation pour autrui. Un mauvais procès pour la codirectrice de l'Organisation suisse des lesbiennes, Muriel Weger.
J'aimerais quand même rappeler que la majorité des GPA faites à l'étranger, c'est des couples hétérosexuels qui les font. Donc de ce point de vue-là, je pense pas que ce soit une priorité des mouvements LGBT. Je pense que la priorité, c'est davantage de reconnaître les familles qui existent, de reconnaître les enfants et de leur donner la protection de deux parents.
Gravé dans le marbre de la Constitution, l'interdiction de la gestation pour autrui, avec les problèmes éthiques qu'elle pose, n'est pas prête d'être abolie.
Et on notera, en parlant du mariage pour tous, qu'en Belgique, Jacques, il existe déjà depuis près de 20 ans.
Oui, la Chambre a voté la proposition de loi qui ouvre le mariage à des personnes de même sexe en janvier 2003 déjà. Et quelques mois plus tard, la Belgique devenait le deuxième pays au monde à reconnaître ce mariage pour tous, juste derrière les Pays-Bas. En Belgique, l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel a aussi été rendue légale en 2006.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En France, à présent, les agences Pôle emploi sont sur le qui-vive. Elles redoutent l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage parce que c'est une réforme qui risque de pénaliser une partie des chômeurs. Et du coup, on craint d'éventuelles agressions sur les agents de Pôle emploi. Résultat, dans la région Île-de-France, des bracelets d'alerte ont déjà été commandés. Des boîtiers aussi qui permettent de signaler une agression ou une incivilité. Bref, Pôle emploi renforce sa sécurité, comme va nous l'expliquer Maxime Debs pour France Inter.
Selon ce document intitulé « Plan d'action sécurité », commande a été passée pour l'Île-de-France de 695 bracelets permettant de déclencher l'alerte. Bracelets auxquels s'ajoutent une centaine de boîtiers dotés d'une sirène multitonalité et d'un flash. Objectif stipule bien la note, permettre aux agents de pouvoir signaler une agression ou une incivilité dont ils seraient victimes et agir au plus vite. Livraison des premiers kits dès cette semaine. La Seine-Saint-Denis sera servie en premier, puis Paris dans 8 jours. Initiative locale pour l'instant. Rien d'annoncé au niveau national, mais des idées qui font leur chemin, comme la généralisation des caméras de surveillance dans les agences, sujet mis sur la table encore la semaine dernière par la direction. Direction qui a tenu bon de transmettre aux agents ces derniers jours, par ailleurs, quelques éléments de communication pour expliquer au mieux les ressorts de la réforme aux demandeurs d'emploi. Cette réforme, véritable usine à gaz, bombe à retardement pour les syndicats, convaincus qu'il y aura des tensions. Pas tout de suite peut-être, mais dans un mois, quand les premiers effets apparaîtront noir sur blanc sur la feuille d'allocation.
Maxime Debs pour France Inter. Donc, on va se quitter cette semaine en Belgique. Jacques, de nouveaux assouplissements sont entrés en vigueur ce 1er octobre, et notamment la réouverture des boîtes de nuit.
Un an et demi qu'elles attendaient cela, les discothèques ont rouvert leurs portes et surtout leurs pistes de danse. Et pour certains, pas question de perdre un instant. Des établissements ont ouvert dès minuit et une minute ce jeudi 1er octobre, sans attendre la soirée de vendredi, à condition d'assurer une qualité de l'air et une ventilation suffisante, mais aussi à condition pour le public de disposer d'un pass sanitaire, d'une preuve de vaccination ou alors d'un test négatif.
Moi, je suis pas vaccinée, donc j'ai dû aller faire tester. J'ai dû attendre un certain temps et après, j'ai pu rentrer. Mais je préfère ça que ne pas pouvoir, ne rien pouvoir faire du tout, quoi. Donc à choisir, oui, je préfère faire un test antigénique et pouvoir rentrer plutôt que de ne rien faire du tout.
Grâce au pass sanitaire, le retour en discothèque a donc pu se faire sans masque. En revanche, celui-ci reste obligatoire en Wallonie et à Bruxelles, dans les magasins, les restaurants, les cinémas ou encore les salles de sport. Autant de lieux où le masque peut être désormais abandonné. En Flandre, là où le taux de vaccination est plus élevé, Bruxelles et Wallonie, où l'entrée en vigueur du pass sanitaire a été reportée au mieux à la mi-octobre.
Et à propos du pass sanitaire, Karine, il s'impose désormais aux plus jeunes, en tout cas aux jeunes adolescents en France.
Oui, l'âge des détenteurs obligatoires du pass sanitaire vient de baisser en France. Désormais, il s'applique à toutes les personnes d'au moins 12 ans et 2 mois précisément, si elles veulent pouvoir aller au cinéma par exemple, ou se rendre à une sortie scolaire.
Merci Karine Bécard et merci à tous. C'était l'actualité des médias francophones publics avec, comme d'habitude, Radio-Canada, RFI, France Inter, la RTBF et la Radio-Télévision Suisse. Excellente fin de semaine et on se retrouve bien sûr, comme d'habitude, la semaine prochaine.